sème l'été le 14 juillet, fête nationale de la République française. On salue tous nos amis français, y compris les 160 000 Français qui vivent quand même à Montréal. Ils sont une sacrée trollée, disons-le franchement. On a une émission pleine comme un œuf à vous suggérer aujourd'hui. On vous parle en ouverture, évidemment, d'un centre pour handicapés qui ferme. C'était sur la une de la presse et c'est assez particulier la façon dont on l'a fait. On vous parle aussi d'un Rouyn-Norandien qui est maintenant chevalier de l'Ordre du Mérite du Québec, tout un parcours. Mais en entrevue, nous allons avoir avec nous Stéphane Marcoux de l'organisme À Plein Rayon, venu nous parler, un, de ce qu'il fait, deux, de ce dont il a besoin, parce que c'est tout aussi important. On a également Sylvie Lauzon qui, elle, s'intéresse au bas des vacances quand on a un enfant avec une déficience. On aura ensuite à vous proposer un terrain de baseball adapté pour les personnes handicapées. Vous allez voir que c'est quand même une chose assez rare. Ça serait le seul de tout le Canada Atlantique, en fait. Et Edith Case, finalement, va venir nous parler du processus de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés. Et tout ça, ça va commencer dans un instant. Allez, on chamboule les habitudes, puisque je remplace Clotilde qui a osé prendre une journée de vacances. On chamboule les habitudes et je mets cette émission à maman en commençant immédiatement avec une entrevue. J'ai l'air spontané comme ça, mais la vérité, c'est que je trouve pas mes notes, je le dis tout de suite. À mes côtés en studio, Stéphane Marcoux, qui est le directeur général, l'organisme, l'âme, l'inspiration d'un organisme des Cantons de l'Est qui s'appelle À Plein Rayon. Monsieur Marcoux, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Bon. Dites-nous d'abord, c'est quoi À Plein Rayon?
Bien, Plein Rayon, c'est une place pour les jeunes adultes 21 ans et plus, parce qu'une fois que les gens ont 21 ans, un spectre d'autisme ou avec une déficience intellectuelle, ils n'ont pas vraiment un endroit à aller. Donc, nous, c'est ça, on a parti à un centre pour personnes 21 ans et plus, mais aussi on prend des élèves du secondaire. Puis on prend des vieux vélos, puis on leur montre la mécanique de vélo, puis les vélos sont redistribués dans la communauté à bas prix, ou même on les donne à les jeunes dans le besoin.
Mm-hmm. Les vieux vélos étant fournis par...
Les éco-centres. On a fait une entente avec les éco-centres de la MRC de Bromissisquoi. Puis ce qu'on fait, c'est on va chercher les vélos, puis les gens, beaucoup de gens là, maintenant, c'est rendu, on est dans notre deuxième année, donc le mot se passe, puis à tous les jours, il y a des vélos qui rentrent. Là.
Parce qu'on n'en parle pas souvent, effectivement, mais il y a toute une structure d'accueil pour les jeunes dans le milieu scolaire. Il y a à la limite une structure d'accueil pour les personnes lourdement handicapées par la suite, mais entre les deux, les gens qui finalement sortent de l'école avec ou sans diplôme, mais c'est souvent ça, rendus à 21 ans, ils sont éjectés du système,
ben,
carrément.
Ils tombent dans, c'est ça, là, quand on parle, ils tombent dans la craque, bien profonde parce que, c'est ça, les services sont presque inexistants. Il y a un manque de services énorme, puis ces jeunes-là, ben Ce qu'ils reçoivent, c'est de la manière, c'est qu'ils reçoivent leur aide sociale, puis ils s'en vont se cacher dans la cave. C'est ce qu'on leur donne pour leur vie. Une fois à 21 ans, parce qu'ils ont droit à l'école jusqu'à 21 ans. Une fois l'école terminée, ben c'est ça, ils sont à la retraite. Mais pas pour nous. Nous, on ne voit pas ça comme ça.
Et c'est une espèce de spirale, effectivement. Ouais. On les convainc immédiatement dès qu'ils ont, surtout s'ils ont échoué le processus scolaire. C'est une spirale où on les convainc, un, qu'ils ne servent à rien, qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'il n'y a pas de débouché pour
c'est
eux.
Ça. Exactement. Puis nous, ben c'est ça, c'est l'inclusion sociale à 100%. Chaque tâche qu'ils font, c'est pas juste des vélos qu'on fait. On a un projet de cabane d'oiseaux incroyable qu'on fait pour réduire le taux d'insecticides dans les vignobles de la région. Mm-hmm. Ça fonctionne très bien, ça aussi. Mais pour venir aux 21 ans, ce qui arrive, c'est que, c'est ça... nous, on veut vraiment les inclure socialement. La vraie inclusion sociale, ce qui fait que chaque tâche qu'ils font dans notre organisme, ça a un impact concret dans notre communauté et dans la société. Donc, ils font quelque chose pour de vrai, puis on valorise leur implication à 100%.
OK. Et ces personnes-là que vous accueillez à plein rayon, elles souffrent de quel type de handicap?
Bien, il y a le spectre de l'autisme. Mm-hmm. La vaste majorité, je dirais 60 % de nos participants, on en a 82 qui viennent par semaine en passant, ce qui mm-hmm. est énorme.
À raison de quoi? Une journée, deux journées?
Deux journées, il y en a quatre, ça dépend, mais en général, c'est une à deux journées par semaine. Et c'est ça, puis ils viennent, puis c'est des personnes dans le spectre de l'autisme, mais aussi avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle aussi, ou aussi avec des apprentissages scolaires sévères.
Mm-hmm. Et avec, dans chaque cas, effectivement, un apprentissage, je suppose, qui est progressif. Là, on commence par enlever un maillon de chaîne et on finit par ajuster les rayons d'une roue. C'est quand même un beau projet.
Oui.
Dans votre atelier, en même temps, il peut y avoir combien de personnes?
Dans nos grosses journées, ça peut monter jusqu'à 22 personnes. C'est énorme. C'est beaucoup de gens. Puis on est environ 4 qui aident là-dedans. Fait qu'on court en masse.
Mm-hmm. Et on va aborder le nerf de la guerre parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Vous êtes un organisme de création relativement récent.
Oui, oui.
Vous ne tombez pas encore totalement dans les chantiers d'économie sociale qui doivent vendre des produits.
Nous, on en a rapidement pour mm-hmm. survivre parce qu'on se fait... On se fait niaiser par le gouvernement.
Ça, vous voyez venir ma question.
Ouais, ben,
d'où vient votre financement et comment vous parvenez à
c'est des gens, au profit en général qui nous donnent des gens au privé, dans le fond, qui nous donnent nos sommes. Puis on survit à cause de ça, mais on ne peut pas s'asseoir juste là-dessus. Là, parce que nous, ce qu'on a fait, on a créé des projets d'économie sociale. On a parti un magasin de vélos, mes meilleurs mécanos, mm-hmm. puis les gens viennent faire réparer leurs vélos. Puis notre projet de cabane d'oiseaux aussi, on charge 15 $ la cabane d'oiseaux, mais on crée des sommes pour survivre dans le fond, mais c'est pas, on se leurre pas, là, c'est pas assez pour un projet d'envergure comme ça qui nous coûte environ 200 000 $ par année.
Mm-hmm. Oh, bah, bon.
Oui.
Bon, en fait, on imagine tout de suite un atelier avec une vingtaine de personnes, juste le chauffage en hiver, c'est
7 000 pieds carrés. Ouais. C'est 7 000 pieds carrés qu'on a besoin pour faire les projets qu'on fait présentement. Puis mm-hmm. C'est très cher. C'est très cher. Puis on fait ce qu'on peut, mais comme je vous dis, c'est des gens au privé qui nous aident présentement. Mm-hmm. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à avoir des gens assez costauds sur notre CA qui nous aident, incluant Mme Michèle Bazin,
mm-hmm.
qui vient de joindre à nous, à l'équipe. Donc ça, c'est une personne qui va nous être très, très, très importante. Là,
Michèle Bazin, qui est l'animatrice bien connue.
Oui. Mm-hmm. C'est ça, exactement. Donc, avec elle, c'est sûr que la cause devrait avancer un peu plus rapidement parce que c'est une dame qui est quand même très bien armée là, pour nous aider avec ces choses.
Et dans la communauté de Cannesville, parce que vous êtes situé à Cannesville, vous avez le support des organisations locales, des clubs?
Non, pas vraiment.
Ah.
Pas vraiment. Nous, on a la ville de Cannesville qui nous aide. Qu'est-ce qui arrive avec les autres associations qui sont genre comme nous? Ben, il y a une genre de petite... je sais pas comment... Je vais rester au niveau positif, mais ça, c'est une petite rivalité parce que tout le monde, tu sais, je pense que c'est... Le responsable de ça, dans le fond, c'est le gouvernement qui donne pas de financement à nous pour vraiment s'assurer la pérennité de ces services-là. Puis ce qui arrive, c'est qu'on commence à... chamoyer pour des sons noirs dans notre coin parce que les gens, mm-hmm. ils disent « Ah non, il est pas bon, moi je suis le meilleur. » Mais tu sais, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on devrait tous travailler ensemble dans le but premier, c'est quoi? De donner la place mm-hmm. à ces gens-là, inclusivement, là, dans notre société, puis pas commencer à se battre parce que moi je veux 25 cents, toi t'en veux 30. Garde, ça marche pas.
C'est remarquablement contre-productif.
Exactement.
Quand on commence à dépenser plus d'énergie à regarder par-dessus son épaule
c'est
qu'en
ça.
Avant.
C'est ça, exactement. Mm-hmm. Puis je pense que le responsable de ça, c'est l'esprit d'austérité sévère, j'appelle, que le gouvernement a créé, qui fait que ça fait ça. On n'avance pas, là. Là, je veux pas être hyper négatif aujourd'hui ici, mais la réalité est que mm-hmm. on n'avance pas.
Est-ce qu'il y a encore des intervenants? Bon, je ne suis pas très, très familier des réalités des CISSS, la nouvelle structure,
Ouais.
mais est-ce qu'il y a encore des intervenants locaux à qui on peut parler puis qui ont une certaine discrétion?
Au niveau du CIUSSS, nous, ce CIUSSS de l'Estrie, c'est très, très difficile. On se fait passer le message, là, on parle à quelqu'un, puis là, c'est pas vraiment mon département, puis là, t'essaies d'appeler quelqu'un, ça prend 2 semaines avant qu'il te rappelle, puis, c'est toujours ça. On est toujours à la recherche de parler à la vraie bonne personne. Même à Emploi Québec, on essaie d'avoir une subvention avec le Passe Action, qui serait un programme parfait pour ce qu'on fait, nous, à notre centre, à notre endroit. Puis, présentement, on se fait dire, là, on appelle un peu partout. Bon, ça m'a pris une fois, là, j'ai parlé à 9 différents intervenants d'Emploi Québec avant d'arriver à une personne qui me dise non. On s'entend-tu que c'est rire du monde,
Je voudrais pas qu'on se laisse sur une note négative
là. Oui.
sur les difficultés que vous rencontrez. Parlez-moi des belles expériences, des
Ah.
belles rencontres que vous faites.
Ah, absolument. Là, c'est tellement enrichissant ce qu'on fait dans nos vies, à moi puis à mon staff. Quand on a un jeune qui rentre très, très gêné, tu vois qu'il y a vraiment aucune habileté. Il y en a, mais il se fait dire qu'il n'y en a pas. Puis nous, on le prend tranquillement, pas vite, on construit. Puis, tu sais, comme exemple, j'en ai un qui me vient en tête, Anthony, un de mes autistes, que j'adore énormément. Ben lui, je l'ai amené à quelques entrevues radiophoniques. Lui, il a une belle voix de radio. Et
Ah,
puis,
oh, il fallait l'amener encore aujourd'hui.
ouais, j'aurais aimé ça, mais il n'est pas là cet été. Mais j'aurais adoré vous le présenter, là. Mais lui, c'est une personne là, que tu vois, est en train vraiment de se développer. Tu le vois là, il gagne de la confiance en lui, puis. Ça, c'est une des exemples, mais on en a, là, il s'est rendu, tu sais, au début, la mécanique, c'était difficile, puis là, maintenant, ils sont rendus mécaniciens, là, vraiment, là, dans ma shop, là, où ce que ils sont capables de vraiment prendre un vélo, diagnostiquer, et puis de faire la mécanique, là, assez enrichissant pour ces gens-là, là, mais aussi d'aller donner, pour nous, pour nos participants, pour eux, d'aller donner des vélos à des jeunes dans des écoles qui sont dans le besoin, juste ça. C'est incroyable, là, tu le vois, là, la fierté qu'ils ont, qu'ils font quelque chose. Puis ça, quand on parle de sensibilisation, ça fait du millage en tabarouette parce que tu vois un petit jeune de 5-6 ans qui reçoit un vélo, puis là, ben, il est une personne autiste avec une déficience intellectuelle qui donne le vélo, mais.
Ça leur donne une place, une crédibilité, une
Ben, cette
légitimité,
personne-là,
tout d'un coup,
ce
oui.
jeune fille-là, ce jeune garçon-là va grandir, puis c'est une mémoire qu'il va avoir. Ben oui, une fois, quand j'étais jeune, une personne autiste, ben, il m'avait donné un vélo, puis c'est des bonnes personnes. Tu sais, le jugement, on brise des barrières, ça c'est.
Et est-ce que vous entretenez aussi des liens avec les familles des participants à votre
Oui,
programme?
absolument. On fait régulièrement, on parle aux parents parce que ils voient le développement qui se font aussi, puis c'est important. Puis si les parents qu'on aide sont très reconnaissants. Quand on dit que si ça ne serait pas de nous, ils seraient à la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire papa va travailler ou papa reste à la maison, maman va travailler, mais là, les deux parents peuvent aller au travail, puis savoir que leur membre de famille qui a 21 ans peut. Lui aussi vit du succès. C'est
Et
ça qui est important.
c'est la première expérience de travail, celle qui permet
Oui.
d'amorcer la roue, d'en trouver une deuxième, une
Oui.
troisième, et éventuellement d'avoir une vraie vie, de se l'arracher, là.
Exactement. Depuis qu'on a parti ce programme-là, on en a cinq maintenant qui sont à l'emploi, qu'on a assez aidés, on a construit des belles habiletés avec eux pour avoir la confiance. On en a 5 en emploi maintenant. C'est en 2 ans, même pas encore 2 ans d'existence, je vous dirais que c'est des belles victoires, ça.
Et ça n'a pas de prix, effectivement. Monsieur Marcoux, je vous remercie
Mais merci
infiniment de
beaucoup.
vous être joint à nous ce matin.
Merci.
Je vous souhaite bonne chance et j'espère que quelqu'un, quelque part, va entendre votre appel à l'aide. C'est absolument anormal qu'il n'y ait pas de case de prévu pour des initiatives comme la vôtre.
Ouais, Madame Charlebois, Monsieur Barrette, j'espère que le message passe.
Merci, au revoir.
Merci.
say the blues. I've got a right to feel low down, and I've got a right to hang around down by the river. Ooh. But I've got a gal in this hotel. She keeps dragging my poor heart around, and all I see is misery. I've got a right to feel low down. I've got a right to hang around. I've got a right to sit inside down by the river. Oh, yeah. But I know the deep blue sea will soon be calling me. Then you can say what you choose. I've got a right to see the blue.
Enchaîne immédiatement avec une amie de cette émission, Sylvie Lauzon. Madame Lauzon, bonjour.
Bonjour François, comment ça va?
Moi, ça va très bien, vous-même.
Ben, ça va très bien aussi. Les vacances sont commencées, mais vous savez, oui, je suis une amie de l'émission. J'apprécie d'ailleurs beaucoup que vous m'ayez invité à y participer pendant tout l'été. Mais je suis là pour parler de santé mentale et des enfants, des adolescents. Et je suis heureuse que vous fassiez de la place à un sujet comme celui-là pendant l'été. On pense que pendant l'été, il n'y en a pas de problème. Mais pour toutes les familles qui vivent avec des enfants ou des adolescents qui ont des troubles de santé mentale, c'est encore moins évident que pour les parents.
Oui, j'ai l'impression que pour les familles, effectivement, la question de savoir de la place que ça prend, ça se pose pas. Ça prend toute la place tout le temps.
Ça prend toute la place tout le temps. Et puis, tu sais, même pour un parent, quand arrivent les vacances, c'est beaucoup de désorganisation. Hein. Donc, l'enfant est moins encadré. Les parents, il faut qu'ils se retournent et puis qu'ils trouvent des endroits, des camps. Bon, pour un enfant régulier, c'est peut-être plus facile parce que la plupart des municipalités ont des camps d'été. Il y a des camps de jour un petit peu partout au Québec. Mais quand on a un enfant qui a un déficit de l'attention sévère, qui est autiste, qui a des troubles de l'humeur, qui a des troubles de comportement, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que souvent, dans les camps qui existent déjà, ils ne les prennent pas, ces enfants-là. Ou s'ils les prennent et que l'enfant manifeste des comportements un petit peu inadéquats, c'est pas très long qu'on te rappelle pour que tu viennes chercher ton enfant.
Ce qu'on peut comprendre quand même, eu égard au personnel disponible, je pense que les gens ne sont pas formés nécessairement dans les camps d'été pour gérer
c'est
toutes sortes
de... C'est clair que ça demande une formation particulière, mais ça pose un problème parce que surtout quand les enfants sont jeunes, là, quand ils ont 5 ou 6 ans, tu voudrais qu'ils soient intégrés. Donc, souvent, le parent se questionne, est-ce que je vais en parler? Est-ce que je vais parler des diagnostics de mon enfant au responsable du camp d'été? Donc, il y a toujours cette question-là qui se pose. Ensuite, tu cherches à trouver un endroit qui convient à ton enfant. Autant tu veux qu'il soit intégré, autant tu veux justement qu'il y ait des gens qui connaissent un petit peu la problématique, qui soient là, qui soit responsable. Alors, on passe notre temps à chercher des solutions. Il y en existe. Là, c'est clair qu'il y a des camps spécialisés un petit peu partout au Québec. Il n'y en a pas des tonnes. Souvent, il y a des listes d'attente. Il y a des maisons de répit aussi qui offrent des séjours prolongés pendant l'été. Mais tout ça, évidemment, ça coûte cher et c'est pas du tout évident pour tout le monde d'arriver à bien s'en sortir. Et il faut s'y prendre à l'avance. Là, on est à la mi-juillet. C'est clair que pour bien des parents, il n'y a peut-être pas de solution encore qui se sont pointées le bout du nez. Mais peut-être qu'il faut regarder, en fait, il faut magasiner. Moi, la solution à laquelle je pense, qui est la solution qui est peut-être la plus simple dans tous les CLSC du Québec, en fait, là, en santé mentale, quand tu as une difficulté de cet ordre-là, que tu sois un enfant ou un adulte, la porte d'entrée, ce sont les CLSC. Tu ne pointes pas à l'urgence, sauf si tu fais une crise, si ton enfant fait une crise. Dans les CLSC, le mien, en tout cas, celui de... Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. Il y a une brochure qui a été faite avec tous les services possibles et impossibles qui existent en répit, en défense de droits des personnes handicapés, et puis évidemment, bon, toute la santé mentale et toute la question de l'autisme, ça entre aussi dans ce volet-là. Donc, moi, c'est un petit peu de ça que je suis partie la première fois pour trouver des ressources autour de chez moi. C'est clair que on parlait de la question financière, ça, c'est pas évident parce que oui, il y a des programmes gouvernementaux qui supportent ça, mais il y a de longues listes d'attente et on couvre pas tous les frais. Donc, quelque part, il faut... En fait, il y a peut-être des solutions du genre, on essaie de trouver, on s'intéresse aux cours universitaires, à ceux qui étudient en éducation spécialisée. Mm-hmm. Est-ce que ces gens-là, pendant un été, ne seraient pas intéressés à travailler, à venir à la maison, puis à offrir, en fait, à prendre de l'expérience dans ce domaine-là, puis en même temps, bien, vous, ça vous dépanne. Vous pouvez leur offrir un salaire. Il y a toutes sortes de solutions qui existent. Peut-être se regrouper aussi en tant que parent. Ça, c'est clair. Il y a vraiment, dans beaucoup de municipalités, je pense entre autres, là, il y a des organisations qui existent, les répits de Gabi dans la Naudière. Mm-hmm. Dans la Naudière, ils sont superbement organisés. Il y a des points de service dans plusieurs municipalités de la région, Terrebonne, Repentigny, Joliette et compagnie. Et ils travaillent avec les municipalités pour développer des camps spécialisés, donc pour les enfants autistes. Et ce serait le fun aussi qu'il y ait d'autres types de camps qui existent. Il y a l'association de la Tourette aussi qui offre des camps l'été pour les jeunes qui ont le syndrome de la Tourette. Et ce qui est intéressant, outre le fait qu'on sait que nos enfants, on en prend bien soin puisque les éducateurs sont des gens qui connaissent les problématiques, c'est que nos enfants se retrouvent entre eux et puis pour une des rares fois, peut-être qu'ils ne se sentent pas comme des petits extraterrestres là, tellement différents des autres qu'ils ne savent plus avec comment former des liens, comment se faire des amis et compagnie. Donc, c'est un petit peu un répit pour les enfants.
Oui, mais cette réalité-là, c'est aussi celle des parents, si vous me permettez.
Oui.
On a souvent l'impression qu'avoir un enfant atteint d'une déficience intellectuelle ou d'une maladie mentale à la maison, c'est vivre dans une espèce de tour noir entouré de nuages et ouvrir des fenêtres, connaître des gens, d'autres parents, c'est bon pour les parents aussi, puisque en quelque part, la maladie, ça n'affecte pas que l'enfant.
Oh non, c'est clair. Et c'est clair que tu parles d'une tour noire. Pour bien des gens, c'est une espèce de prison. Puis oui, ça a une connotation négative, le mot prison, mais en fait, c'est une espèce d'enfermement. Et souvent, quand tu as un enfant qui a une difficulté de cet ordre-là, tu as tendance à t'enfermer chez toi parce que c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'à chaque fois que tu sors et que ton enfant pose un geste qui est peut-être un petit peu inadéquat ou qui sort de la norme, tu es obligé d'expliquer. Ça devient... Moi, j'ai un fils autiste qui a maintenant 19 ans, là, mais tu deviens fatigué d'expliquer constamment ou d'avoir à défendre les comportements de ton enfant, d'avoir à expliquer ça, à faire comprendre aux gens. C'est difficile aussi de faire face parfois au regard des autres parce que tu te fais juger. Alors oui, et ça serait peut-être une piste intéressante. En fait, il y a des organisations qui existent de plus en plus. Il y a des groupes donc qui offrent du répit aux parents et aux enfants, mais pourquoi ne pas se regrouper en tant que parents pour d'un même secteur, là, pour, par exemple, je ne sais pas, le samedi après-midi, il y a un papa et une maman qui prennent les enfants de 3-4 autres familles du coin qui ont à peu près le même genre de difficultés. Et tu t'échanges tout ça. Je dois vous confier, moi, je m'en vais la semaine prochaine avec, on va être 4 mamans de grands garçons autistes. Donc, les gars vont passer du temps ensemble puis vont faire des activités. Nous, de notre côté, on va faire des activités. On va aussi faire des choses ensemble. Donc, ça, il y a quelque chose de très agréable dans ça et dans les regroupements de parents aussi qui voient leur enfant et qui voient la situation de leur enfant de façon constructive parce que souvent les blogs ou les groupes de défense de droits, ça devient difficile. En tout cas, moi, je vis ça comme ça. Souvent, ça devient difficile parce que c'est lourd. Mm-hmm. T'as envie de vivre un peu de joie à travers
sortir du champ des revendications, des demandes, des déceptions et finalement entrer dans le positif.
C'est en plein ça. Alors,
je suis aussi tenté de vous demander, voyez-vous par exemple au sauveteur en piscine, la première chose qu'on apprend, c'est que tu sauveras personne si tu ne te sauves pas toi-même. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la même chose pour les parents? Puis se le dire franchement, là, un parent, il va faire une meilleure job de parent s'il prend le temps de se donner des répits puis des vacances.
Ah ben oui. Puis je pense que c'est encore plus important pour, évidemment, les parents qui ont un enfant qui ont une difficulté sévère en santé mentale parce que ça occupe tout l'espace. Ça occupe tout l'espace. Les enfants sont envahissants. Leurs problématiques sont envahissantes. Alors oui, ça vaut vraiment le coup. Tu sais, les histoires de répit, les maisons de répit, les week-ends et compagnie. En fait, c'est un congé non seulement pour l'enfant, mais aussi pour le parent. Et tout le monde gagne de ça. Souvent aussi, ce que je me rends compte, c'est que quand je prends une distance par rapport à mon fils, puis ça, je connais plein de gens qui pourraient dire exactement la même chose, je reviens, je le revois avec des yeux plus reposés. Mais non seulement ça, mais souvent les gens avec lesquels il a passé du temps ont réussi à faire avec lui des choses que j'aurais pas même pas imaginé qu'il soit capable de faire. Ça aussi, c'est franchement quelque chose qu'il faut se permettre de prendre suffisamment de temps.
Terminant, Mme Lauzon, parce que le temps passe vite, est-ce qu'il existe des ressources, des programmes ou du soutien financier disponible pour des parents qui voudraient bénéficier de certaines ressources ou c'est vraiment le désert?
C'est pas le désert, sauf que oui, il y en a des ressources. Tous ces programmes-là, avec les changements dans le domaine de la santé, ont été remis en question. Il n'y a pas autant d'argent disponible qu'avant. Il y a énormément de demandes. Il y a des listes d'attente. Mm-hmm.
Aime l'été qui se poursuit. Au micro avec vous pour encore une demi-heure en remplacement de Clotilde Seille, François Brodeur, et on passe aux nouvelles de ce jour. Celle qu'on ne pouvait pas rater puisqu'elle a fait la une de la presse, c'est la fermeture d'un centre pour handicapés, mais un centre qui a fermé, mais brutalement, c'est ce qu'Isabelle Ducasse nous apprend. Une quinzaine de personnes lourdement handicapées ont été déménagées d'urgence de leur centre d'hébergement de Sainte-Adèle hier, une décision cruelle et inhumaine, dénoncent les familles. Les parents ont été informés mardi soir que le Centre intégré de santé et de services sociaux, CISSS, des Laurentides, fermait la résidence Yellen et que leurs enfants seraient relogés ailleurs 2 jours plus tard. Certaines familles n'avaient même pas été mises au courant à cause de la période des vacances. Pour justifier cette précipitation, le CI3S invoque des risques pour la sécurité des résidents à la suite d'allégations de menaces après une mésentente entre les administrateurs du centre. C'est seulement un prétexte pour fermer le centre pour des raisons financières, dénonce Christiane Jacob, qui était en pleurs lorsque son fils Maxime a été contraint de monter dans un minibus de transport médical hier matin. « Je n'ai jamais vu une menace à la sécurité. On n'a même pas notre mot à dire sur l'endroit où ils sont envoyés. » Les parents sont d'autant plus ulcérés que les 15 résidents avaient déjà été déplacés il y a 1 an et demi. Ils habitaient alors le pavillon Sainte-Marie, autre résidence pour handicapés fermée par le centre régional en raison de sa vétusté. Pour la plupart dans la trentaine ou la quarantaine, les locataires de la résidence Yellen souffrent de graves handicaps physiques, de retards mentaux et de troubles de comportement. La plupart ne parlent pas, ils sont tous en fauteuil roulant et certains doivent être nourris par gavage. Un déménagement sans préavis comme ça, c'est inhumain et c'est cruel, lance Christiane Jacob. Il y a des parents qui ne peuvent même pas être là et ils essaient de nous faire croire que c'est pour la sécurité des patients, mon œil. Les parents ou tuteurs n'ont pas été consultés et n'ont pas donné leur autorisation au déménagement comme ce devrait normalement être le cas. Le CI3S a agi sans cette autorisation habituelle en raison de l'urgence de la situation, a expliqué Jean-Philippe Coton, directeur du programme de déficience intellectuelle et physique au CI3S. On a été informé d'allégations de menaces suffisamment sérieuses pour qu'il y ait une plainte à la police, que les serrures soient changées et que des agents de sécurité soient embauchés. On craignait pour la sécurité des résidents. Un tel bouleversement peut avoir des impacts importants sur le comportement de personnes handicapées qui ont peu de moyens de s'exprimer, reconnaît le gestionnaire. Mais en dernier cours, on n'avait pas le choix, soutient-il. sans pouvoir fournir de détails sur les menaces alléguées ni préciser en quoi elles mettaient en danger les résidents. L'un des propriétaires de la résidence, Paul Yell, affirme que c'est pour des raisons financières qu'on les oblige à mettre la clé sous la porte. On leur coûtait trop cher parce qu'on voulait donner une douche chaque jour aux résidents, qu'on embauchait des employés spécialisés et qu'on voulait les payer plus que le salaire minimum. Des frictions entre M. Yell et ses deux nouveaux associés, en plus de tensions avec le CI3S, auraient mené à une querelle. Selon Paul Yell, les nouveaux partenaires voulaient l'évincer de la gestion de la résidence. C'est dans ce climat que certaines de ces paroles mal comprises et répétées hors contexte auraient été prises pour des menaces de mort envers une ex-associée. Mais il n'y a eu absolument aucun impact pour les résidents, assure-t-il. Selon Jean-Philippe Coton, la fermeture n'a rien à voir avec les coûts de fonctionnement. Oui, il y avait des enjeux de viabilité financière, mais ce n'est pas du tout lié à la décision de reloger les résidents, assure-t-il. Les parents des résidents sont estomaqués que leur enfant fasse les frais d'une telle histoire. S'il y avait un problème, c'était au CI3S d'apporter son soutien pour éviter la fermeture, souligne Christiane Jacob. Qu'ils ne viennent pas dire que c'est une décision humaine. En ligne avec moi, j'ai Edith Keyes. Je le prononce bien, Mme Keyes?
Ben Keyes, oui, c'est très bien prononcé.
Bon, merci. Vous êtes directrice générale à l'Association québécoise pour les enfants avec un problème auditif, la QEPA.
C'est cela.
Et vous venez nous parler du programme de dépistage qui semble finalement prendre du recul au Québec.
En fait, je n'emploierais pas le mot « recul », j'emploierais plutôt le mot « retard ».
Oui, c'est ce qui est...
Oui, je m'explique parce que ça fait tellement longtemps que, comme la QEPA et d'autres organismes, là, plusieurs aussi spécialistes au niveau de la surdité qu'on attend ça, l'implantation partout au Québec du dépistage de la surdité, que ça nous semble bien, bien long, effectivement. Là. Oui.
Parce qu'il faut le savoir, évidemment, on ne le réalise pas tous les jours pour les gens qui ne vivent pas avec ce handicap. Détecter la surdité chez un nouveau-né, c'est pas un exercice évident.
Non, effectivement, parce qu'au fond, c'est pas pour rien non plus qu'on dit que la surdité, c'est un handicap invisible. Mm-hmm. Alors, c'est difficile de savoir si un enfant a une surdité avant, finalement, tu sais, qu'il commence à parler ou à interagir, etc., quand il est un peu plus vieux. Donc, c'est pour ça que c'est préférable que l'enfant soit diagnostiqué dès sa naissance. Ça fait une grosse différence dans la vie de l'enfant, là. Particulièrement au niveau de son développement, son intégration sociale dans à long terme. Au fond, tout son potentiel d'apprentissage est significativement amélioré.
Dites-nous un peu en pratique. Oui. En pratique, qu'est-ce qui change là, si j'ai un enfant qui est dépisté, par exemple, à 3 mois par rapport à un qui va l'être à 1 an parce qu'on ne comprend pas pourquoi il ne parle pas ou...
Bon, ben écoutez, prenez un enfant, par exemple, qui est dépisté à 3 mois. Là, une fois que on saura le type de surdité qu'il a, cet enfant-là, il va pouvoir soit bénéficier de l'implant cochléaire ou d'appareil auditif, là. Donc, évidemment, ça va l'aider beaucoup à entendre, là. Et c'est sûr qu'avec ça, je veux dire, ça se fait pas tout seul. Il y a beaucoup d'interventions qui doivent se faire, là, mais par exemple, il doit apprendre à différencier les sons, etc. Si un enfant différencie les sons, la voix de ses parents, etc., de son entourage, et puis qu'il le fait seulement à 1 an ou à 2 ans, vous comprendrez qu'il y a déjà beaucoup à rattraper, là. Mm-hmm. Et lorsqu'il entend, il peut commencer justement à entendre assez tôt. C'est l'acquisition du langage là, qui se fait là, rapidement, là, quand même. Là. Alors, son vocabulaire sera beaucoup plus étendu rapidement, en fait, qu'un enfant qui va entendre vers 2-3 ans. Il y a même des enfants, finalement, c'est arrivé où il a été dépisté à 5 ans. Alors, évidemment, c'est très tard.
5 ans, c'est effrayant.
Ouais. Oui.
On savait qu'en 2009, il y a eu un programme de dépistage qui a été adopté par le gouvernement du Québec. Où est-ce que ça a été implanté?
En fait, disons qu'en 2009, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a annoncé la mise en place du programme. Alors, pour ce faire, il fallait, au fond, pour implanter le programme, il y avait quand même plusieurs choses à faire. Donc, c'était de savoir comment se ferait exactement le programme, les professionnels qui devraient y travailler, le type de formation que les gens devraient bénéficier pour pouvoir faire tout ça, comment les tests se passeraient à l'hôpital, etc., etc. Mm-hmm. Puis aussi, c'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a le dépistage et il y a la confirmation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, au fond, l'implantation du programme comme tel, une fois un peu tout cela fait, là, ça a débuté en novembre 2013, c'est ça, au CHU de Sainte-Justine. Là. Mm-hmm. Et avec ça, au fond, eux, c'est eux qui ont tout préparé le programme, qui l'ont mis en place, qui ont fait les tests, etc. Mais ça, c'est en 2013. Puis aujourd'hui, en 2017, là, il y a le centre hospitalier de Sorel, puis là, il y a le centre hospitalier régional de Lanaudière qui l'a aussi maintenant depuis mm-hmm. un an. L'hôpital Pierre Boucher à Longueuil vient aussi de débuter le programme de dépistage. Mm-hmm. Mais il faut quand même comprendre que pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'autres établissements du Québec qui offraient des tests de dépistage. C'est juste qu'ils étaient en dehors du programme québécois, okay. Vous comprenez? Mm-hmm. Tandis que là, c'est un programme qui est universel pour tous les enfants.
OK. Donc, alors, si on n'est pas dans la zone d'un des hôpitaux que vous venez de mentionner, Sainte-Justine peut rendre le service pour l'ensemble du territoire.
Oui, puis comme, et aussi les autres qui l'offrent également. Puis en fait, c'est que l'affaire qu'il y a, c'est qu'une fois que l'enfant a reçu son dépistage et qu'on doute qu'il est avec les tests qui sont, on appelle ça des tests, soit le test d'émission tôt-acoustique, mm-hmm. de potentiel évoqué auditif, là, une fois que ça c'est fait, il faut quand même le confirmer. Donc après ça, les enfants doivent aller dans des centres de confirmation diagnostique. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a 4 au Québec, mm-hmm. des centres. Ça, ils sont tous intégrés là, dans les réseaux universitaires. Par exemple, là, présentement, il y a le CHU Saint-Justine qui le fait déjà. Il y aura le CHU de McGill, mais on ne sait pas encore où. Le CHU de Québec, on sait que ça va être au pavillon au centre universitaire, au centre hospitalier de l'Université de Laval, mm-hmm. puis aussi de Sherbrooke. Mais pour le moment, effectivement, vous avez raison. Pour vraiment ce qui est de la confirmation, ça se fait pas mal tout à Sainte-Justine.
Ouais, ce qui veut dire que 8 ans plus tard, finalement, depuis 2009, on a mis en place un programme qui est encore finalement, on peut le dire, à un stade quasi expérimental. Ou en tout cas, qui est méconnu.
Moi, je dirais un petit peu, il n'est plus au stade expérimental. Parce que, étant donné que Sainte-Justine a eu le mandat de procéder justement à toutes les expérimentations, de mettre en place, si vous voulez, un protocole, etc., ça, c'est fait, là. OK, mm-hmm. ça, c'est acquis, là. C'est pour ça que moi, personnellement, maintenant que ça, c'est fait, qu'on l'a intégré déjà à 3 endroits, j'ai confiance que ça va se faire assez rapidement. Bon, mais est-ce que rapidement pour moi, puis rapidement pour le ministère de la Santé, c'est peut-être 2 choses différentes.
Et rapidement pour un bébé qui vient de naître avec une surdité?
Ben, c'est ça. Là, on souhaite vraiment que ça soit implanté partout, là, mm-hmm. dans tous les hôpitaux au fond du Québec. Là. Mm-hmm. Ça, on se dit que c'est ça. Fait que donc, quand ce déploiement-là qui est en train de se faire présentement sera terminé, bien là, tous les hôpitaux pourront l'avoir. Moi, ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est que ça ne prendra pas plus que 2 ans. Mm-hmm. Un gros maximum de 2 ans, et moins, évidemment, ce serait encore mieux.
Et
parce
on
que c'est inquiétant
dire, ouais.
pour les parents, ouais. là. C'est très inquiétant pour les parents quand ils ne savent pas. Mm-hmm.
On peut aussi dire qu'en termes de coûts, le faire tôt ne coûtera pas plus cher que faire tard, bien au contraire, puisque le retard que les enfants vont prendre va coûter finalement très cher.
Vous dites tellement vrai. Écoute, c'est évident que le faire rapidement, les coûts qui sont associés à ça sont moindres que ceux qui pourraient survenir par la suite, effectivement, lorsqu'il est diagnostiqué beaucoup plus tard. Puis aussi, c'est pas juste une question de coût qu'on regarde. C'est mm-hmm. Au fond, c'est le bien de l'enfant. Hein? Mm-hmm. C'est tout son
potentiel. Oui, je sais, mais malheureusement, vous le savez, les intervenants en santé, on a souvent l'impression que ça se résume à une ligne comptable.
Ben oui, je peux pas dire le contraire, que l'argent, malheureusement, c'est trop souvent le nerf de la guerre, là. Mm-hmm. Mais là, enfin, en tout cas, au moins, c'est tout. Parce que vous, comment je pourrais vous faire comprendre? Ça fait tellement longtemps que ouais. l'AQEPA, c'est ça, puis tous les organismes mm-hmm. se battent pour que ça voit le jour. Là, on est comme, on se réjouit sans tout à fait se réjouir, vous comprenez?
Et disons-le franchement aussi, pour les parents, c'est la possibilité d'avoir, j'allais dire un vrai enfant à la maison, c'est méchant comme expression, mais une vraie relation avec son enfant s'il a un implant, s'il a reçu son implant.
Je dirais que c'est une relation plus simple.
Oui. Oui, parce qu'effectivement, on peut parvenir,
Oui, ouais, n'oubliez pas qu'il y a des enfants qui ne seront tout de même pas, c'est pas tous les enfants qui vont recevoir non plus un implant cochléaire, ni non plus des appareils auditifs, là. Et l'enfant va développer quand même une relation avec ses parents. Dans ce temps-là, on tombe dans un autre univers. C'est parce que là, on va parler en termes de langage des signes, etc. Ce sera plus le même type tout à fait de communication. Quoi que soit dit en passant, même pour les enfants qui sont implantés puis qui ont des appareils auditifs, l'apprentissage de la langue du LSQ, là, ce n'est que très bon pour eux. Au fond, ça ajoute juste une corde à leur arc, là, pardon.
Oui, ben écoutez, le temps file, il file terriblement vite. Si vous aviez un souhait à formuler en terminant, quel serait-il? Et je vous donne à peine 10 secondes pour le faire.
Ben, il est plus que temps que tous les hôpitaux du Québec, finalement, offrent le dépistage de la surdité dès la naissance. Écoute, le plus tôt sera le mieux. Et puis, il n'est pas question là, que les parents du Québec attendent encore très longtemps.
Mm-hmm. Pour de meilleures vies et finalement aussi des coûts diminués. Madame Keyes, il me reste à vous remercier. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler sous peu. Il y a plein de choses à fouiller là-dedans.
Tellement. Là. Ben, écoutez, ce sera avec plaisir. On en parlera. En fait, plus on en parle, mieux c'est. Comme ça, tous les parents sont au courant qu'il y a quelque chose à faire, puis que le dépistage existe et que tout ça ne pourra aller qu'en s'améliorant. C'est le vœu qu'on souhaite aussi, au fond, là.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Sport, c'est la santé. Et à ce propos, la ville de Moncton a inauguré en juin 2017 son tout premier champ de baseball adapté pour les personnes en situation de handicap. Et ça a été un long parcours. Pour nous en parler, j'ai avec moi Mme Charline Alain-Godin, qui est coordonnatrice du programme Champ de rêve et responsable du projet, ainsi que Mme Nadine Melançon-Leblanc, qui est agente de développement communautaire en loisirs à Moncton. Bonjour, mesdames.
Allô, bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, oui.
Bon, alors parlez-nous un peu de ce projet un peu fou, parce que j'ai cru comprendre en lisant mes notes que des champs des terrains de baseball adaptés, c'est à peu près inexistant sur la côte atlantique.
C'est exact. C'est le premier terrain avec le gaz artificiel dans la province atlantique, c'est celui qu'on vient tout juste de compléter au Nouveau-Brunswick à Moncton.
Et qu'est-ce qui distingue un terrain de baseball adapté?
Pour notre projet, c'est important que le gazon intérieur était artificiel, puis qu'il n'y ait pas d'obstacles.
OK.
Ça fait qu'on a enlevé les buts, on a enlevé les trous, on a enlevé tout obstacle qui causait les enfants, soit en chaise roulante ou avec ceux qui sont semi-aveugles ou quelque chose, de pas avoir de problème de se rendre au terrain.
Donc, il s'agit d'abord d'accéder au terrain. Sur le terrain lui-même, on enlève donc tout ce qui est monticule, tout ce qui peut finalement accrocher, enfarger, ou on met simplement une plaque pour signifier les buts.
Exactement.
OK. Et ce terrain, il est très, très occupé? Il fonctionne bien?
Il est très occupé. Puis oui, il fonctionne bien. Une chose qui était importante pour nous autres aussi, c'était de faire sûr que le terrain était occupé dans les temps quand nous autres, on ne l'utilisait pas. Qui veut dire le groupe Field of Dreams ou Champ de rêve. Alors, on a décidé de faire le terrain aux normes que le baseball mineur peut se servir aussi.
Okay,
ça fait que c'est non seulement nos enfants qui ont des besoins spéciaux, mais les enfants aussi qui n'ont pas d'handicap peuvent s'en servir.
Oui, on peut imaginer éventuellement peut-être même les faire se rencontrer un jour.
Certainement.
Et partager, oui. Bon, il y a le terrain lui-même et les accès au terrain, là, on parle, je pense, de salle de bain, d'estrade. Bon, une chaise roulante pour une estrade, c'est l'enfer, évidemment. On parle des abris, on parle d'accès au stationnement. C'est plein de choses, finalement, un terrain adapté. Tout ça, ça a été pensé?
Certainement. On a intégré... la salle de bain était déjà là, mais elle a été adaptée pour que les chaises roulantes peuvent rentrer plus facilement. On a aussi ajouté des débarquements très près du terrain. Puis, pour se rendre au terrain, les petites routes sont toutes pavées.
OK.
Ça fait qu'on a vraiment enlevé tous les obstacles qui entourent le terrain pour qui que ce soit.
Vous m'avez parlé tout à l'heure de vos enfants qui allaient éventuellement céder la place aux autres enfants, mais est-ce qu'il y a aussi des adultes qui vont être appelés à s'en servir?
Notre groupe, présentement, ça va... D'habitude, c'est de 5 à 18, mais on a des jeunes qui participent dans le programme depuis le début, qui était en 2010, puis ils dépassent l'âge de 18 ans. J'ai de la misère à leur dire non. Ça fait qu'aujourd'hui, ils participent encore. Je pense que notre plus vieux a 23 ans.
Et
ça fait...
Oui.
Oh, allez-y.
Et oui, la nature des handicaps pour les participants, ça ressemble à quoi?
On a des personnes en chaise roulante. Ça fait que la dystrophie musculaire... on a aussi beaucoup d'enfants qui sont autistes. On a des enfants qui ont des symptômes de... Oh, je ne me rappelle plus des noms. Le cri du chat. On a un enfant avec le cri du chat. On a avec Joubert syndrome. Ça fait que... On a un
vaste éventail.
Pardon?
Un vaste éventail de handicap, finalement. Mais ça appelle aussi la présence sur le terrain d'intervenants spécialisés, je suppose, pour un enfant à mobilité réduite, par exemple, pour avoir de la difficulté à frapper ou à se déplacer jusqu'à la balle?
Il y a des enfants que, oui, ils n'ont pas de mobilité. Ça fait que ce qui arrive, c'est que soit qu'il y a un parent qui participe ou qu'on a un bénévole, puis il va aider le jeune à frapper la balle, c'est ça qu'il a besoin, à courir les buts. Ça fait que le baseball est un sport très facile à adapter à le besoin de l'enfant. Puis avec quelqu'un qui les aide, c'est bien plus facile.
Et dites-nous, si je vous demandais là, toute cette histoire-là, ça vient d'où? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'adapter un terrain de baseball?
On a commencé le groupe en 2010. C'était avec l'aide de le groupe Baseball Senior de Moncton. Puis une des choses qu'ils ont décidé, c'était de s'impliquer un peu plus dans la communauté. Ça fait qu'on a fait la recherche, on a tombé sur ce programme, le programme Champ de rêve. Puis, de notre côté, c'était comme un no-brainer, comme qu'on dirait. C'était juste parfait. Ça fait qu'on a décidé de lancer le programme. On a débuté avec probablement 23 ou 25 jeunes. Puis avec les années, le groupe grossissait à chaque année. On a commencé à voir un petit peu les obstacles que des tels enfants avaient pour se rendre au terrain. C'est de là qu'on a décidé probablement 4 ans dans le programme que peut-être on devrait parler ou demander de l'aide de la ville et la province de pouvoir faire un terrain qui serait accessible pour les jeunes.
Et l'accueil a été favorable, donc. Et si vous aviez un rêve à formuler maintenant pour l'avenir de votre champ de rêve?
On a peut-être une phase 2 qu'on considère faire au terrain. Ça va tout dépendre des dons qu'on va recevoir d'ici 2 ans. Mais on aurait peut-être une région de pique-nique dépendant de l'argent qu'on ramasse. Ça pourrait peut-être faire le terrain au complet, artificiel. Ça fait que on a des choses qu'on pense ou qu'on a mis sur papier qui serait le fun d'avoir pour les enfants. Et pour, dès le début, sans ajouter rien au terrain qui existe déjà aujourd'hui, ça serait peut-être de faire comme des jamborees. Puis le concept de jamboree, ça serait d'inviter les équipes semblables au champ de rêve de venir faire un tournoi à Moncton. Puis ça, on pourrait inviter jusqu'à les équipes de Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et même le Québec.
Oh, c'est génial. Et dites-moi, en terminant, juste pour mettre une note positive, le sourire d'un enfant qui s'amuse sur le terrain, ça n'a pas de prix, non?
Zéro. Ça n'a vraiment pas de prix.
Mesdames, je vais vous remercier infiniment de nous avoir consacré un peu de temps. Je vais vous souhaiter bonne chance aussi, puis une longue vie à votre terrain.
Merci beaucoup.
Et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Il nous reste le temps pour une petite nouvelle que je ne voulais pas taire. Il y a un roi norandien qui a été reçu chevalier de l'Ordre national du Québec et je pense que ça vaut la peine qu'on parle de M. René Dallaire. Devenu quadriplégique à l'âge de 19 ans à la suite d'un accident de ski au Mont Vidéo, René Dallaire a consacré sa vie à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Originaire de Rouyn-Noranda, il se dit très fier de ses racines. Ça m'a d'ailleurs un peu déçu qu'on ne mentionne pas mon lieu de naissance lors de la cérémonie, a-t-il indiqué. J'aurais bien aimé entendre le nom de ma ville résonner à l'Assemblée nationale. Cette distinction qui incarne depuis 1984 la reconnaissance la plus prestigieuse que l'État québécois peut décerner à un citoyen lui a été remise par le premier ministre Philippe Couillard lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 22 juin à l'Assemblée nationale à Québec. « J'en suis très fier », a-t-il déclaré en entrevue. « Je vois ça comme le couronnement de ma carrière professionnelle, mais aussi de mon implication dans l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. » M. Dallaire faisait partie des 33 récipiendaires de 2017. Natif de Rouyn-Noranda, René Dallaire est devenu quadriplégique à l'âge de 19 ans à la suite d'un accident de ski. Cela n'a toutefois pas empêché de compléter des études collégiales dans sa ville natale au début des années 1970, pour ensuite suivre une formation universitaire en administration à Montréal. Au collège, ça m'a interpellé de constater à quel point nous étions vraiment très peu de personnes handicapées. Par la suite, à Montréal, j'ai vécu au centre de réadaptation Lucie Bruno avec 135 autres personnes vivant des handicaps divers, en compagnie d'une trentaine d'autres résidents aux prises avec des limitations similaires aux miennes. On a appris à donner un sens à tout ça. Ça a été ma période de réadaptation sociale, a-t-il raconté. Ce séjour a aussi conduit M. Dallaire à un constat brutal. Il n'existait pratiquement aucun service adapté aux personnes vivant avec une déficience physique. Ce n'est pas compliqué, tout était à bâtir. L'accès aux bâtiments publics et privés, le transport des services adaptés... À l'époque, on plaçait ceux qui avaient un handicap physique dans le même bateau que ceux qui étaient atteints de problèmes psychiatriques ou d'une déficience intellectuelle. Disons qu'on n'a pas chômé pour faire bouger les choses, a-t-il lancé. Et donc une reconnaissance qui arrive à point nommé pour ce qui est finalement un artisan de la communauté des personnes handicapées au Québec. Vous l'entendez, l'indicatif musical qui ne me laisse pas le choix, c'est déjà le moment de se quitter. Je ne voudrais pas le faire sans remercier à la mise en onde Mathieu Tessier, Sylvie à la recherche, Sylvie Dallaire, et Clotilde aussi, Clotilde qui a pris des vacances, mais qui m'avait laissé d'abondantes références. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma part, mais ne vous en faites pas, Clotilde sera des vôtres dès lundi.